J'étais rendu où cet avant-midi? Vous vous rappelez-vous?
Le discernement, on est illuminé par une lumière intérieure qui est la vérité.
Très bien.
On ne peut pas contester.
Très bien. Alors, je vais partir là-dessus. Je vais partir là-dessus parce que le principe que je vous ai donné concernant le discernement, il vaut pour les dons en exercice dans un groupe de prière. Quand je vous ai dit ceci, c'est une illumination, c'est quelque chose qui est immédiat, qui est instantané, qu'on est certain, au-dedans de soi. C'est pas à cause d'un raisonnement ou à cause d'une analyse, mais c'est comme ça. Donc, on pourrait dire que l'œil de Dieu jette un coup d'œil sur l'âme et à cette âme-là, il lui donne le signe. Il lui donne pas parce qu'il est saint. Il lui donne pas parce qu'il est parfait. Mais il va lui donner parce que cette âme s'efforce d'être purifiée et de se purifier. Et quand on vous a parlé, je vous ai parlé de comment qu'on appelle ça, donc, de la poutre qu'il y a dans notre œil. Si on l'enlève, c'est l'histoire de la purification. C'est l'histoire du détachement. Jean de la Croix disait que un seul petit fil empêche l'âme de s'élever vers Dieu quand elle est retenue par une attache à la terre. Bien sûr, une attache qui est voulue, qui est consentie, qu'on garde, qu'on ne veut pas se faire arracher. Il m'est arrivé qu'une noble dame d'un certain âge et d'un âge certain cherchait ses pendants d'oreilles. Elle les avait perdus. Elle faisait la pluie et le beau temps pour les retrouver parce que c'était ce qu'il y avait de plus cher. Il y avait toute une histoire là-dedans. Tenait tellement qu'elle en a fait presque une maladie. Ça, c'est ça qu'on appelle un attachement qui est déréglé face à un objet. Vous pouvez dire, ben, c'est bien raisonnable, c'est bien normal, c'est bien ordinaire, qu'est-ce que vous voulez, c'est ses vieux parents. Mais on peut tout trouver ces excuses-là, mais on parle de l'attache. Dans le groupe de prière, si on veut faciliter l'exercice des dons, des charismes, je dis des dons, là, mais je devrais dire des charismes. Vous savez qu'il y a une petite différence entre dons et charismes. Les charismes, c'est pour les autres. Les dons, c'est pour nous-mêmes. Les dons sanctifiants, c'est pour nous sanctifier. Les charismes, c'est pour les autres, la sanctification des autres et l'édification du corps conforme. Mais je ne commencerai pas à tout décortiquer ça, mais c'est pour vous dire cependant, par exemple, le don d'intelligence, c'est un don qu'on reçoit d'une façon particulière à la confirmation, au baptême, à la confirmation. C'est ce don qui nous donne de pouvoir pénétrer dans les Écritures et d'en saisir le sens. Vous avez là, les autres ne le voient pas, mais vous, vous le faites l'expérience de ça. On en fait l'expérience. Le don de crainte de Dieu, c'est ce don qui fait qu'on évite tout ce qui peut déplaire à Dieu. C'est pas la peur de Dieu. C'est pas la peur du châtiment de Dieu, c'est pas ça. C'est ce don qui fait qu'on fait tout en notre pouvoir pour pas déplaire à Dieu. et de rechercher sans cesse sa volonté. C'est ça qui est accompagné du don de crainte. Et ça procure la sagesse, qui est de goûter Dieu et sa parole. C'est merveilleux, mais c'est pour nous-mêmes d'abord. Tandis que la prophétie, c'est pour le bien commun des autres. Le don des guérisons, c'est pour les autres. Le don de lire dans les cœurs fait partie de l'aspect prophétique. Dans la prophétie, vous avez plusieurs dons qui peuvent se manifester à l'intérieur de la prophétie. Le don de science, le don de conseil, le don d'intelligence. Vous voyez? Mais à ce moment-là, c'est communiqué aux autres par le don de prophétie. Saint Thomas d'Aquin fait tout un chapitre sur la prophétie. Et il a relié beaucoup de dons autour de la prophétie. C'est peut-être pour ça que Saint Paul, on le voit dire que par-dessus tout, aspirez au don spirituel, surtout à celui de prophétie. Parce que celui qui prophétise parle aux hommes, il l'édifie, il exhorte et console. Alors, il va dire en assemblée, supposons que je vienne chez vous et je vous parle en langue. Vous êtes tous des Québécois qui parlent français, puis supposons que personne parle l'anglais. Personne. Et moi, j'arrive, puis je vous parle en anglais. C'est ce que Saint Paul vient dire. Supposons que je vienne chez vous et vous parle en langue. En quoi vous serais-je utile si ma parole ne vous apporte ni révélation, ni science, ni prophétie, ni enseignement. Vous voyez, il vient dire, si je ne vous parle pas dans la langue, dans votre langue, vous ne comprendrez rien. C'est ça qu'il voulait faire comprendre. Parce que vous savez que chez les Corinthiens, à un moment donné, il y a des gens qui trouvaient ça tellement merveilleux, prier en langue, qu'ils priaient à haute voix durant l'assemblée. Ça dérangeait tout le monde. Alors, j'arrive avec cet exemple pour vous dire ceci. Quand on exerce les dons, il faut être très attentif au-dedans de son cœur pour avoir le signe que je vous ai parlé pour le discernement des esprits. C'est dans la même lignée, dans la même façon. L'âme est certaine que le Seigneur qui veut que vous adressiez un mot à l'Assemblée. À moins que celui qui anime demande à celui qui voudrait parler d'attendre. Parce que vous retrouvez dans le texte de Saint Paul, c'est assez mystérieux, il va dire, « Si quelqu'autre assistant a une révélation, que le premier se taise. » C'est donc qu'il y avait quelqu'un qui parlait. Et là, Saint Paul vient dire, « Ben, que l'autre se taise pour laisser parler l'autre. » C'est pas facile, ça. Ce qui suppose que l'animateur, il faut qu'il puisse détecter le signe du Seigneur à travers ceux qui veulent parler. Donc, ne vous surprenez pas que des fois, vous manquez votre coup. Ce qui est important, c'est que votre désir au fond de votre cœur, ce soit la gloire de Dieu. Ce soit que Dieu puisse se manifester dans l'assemblée pour qu'on puisse mieux l'adorer, mieux l'aimer, mieux le servir. Alors, les signes de certitude au fond de l'âme, il faut la demander, faut demander cela au Seigneur quand on se réunit. Viens, Seigneur, prendre possession de nos cœurs, que ce soit pour uniquement ta gloire, non pas pour mon goût personnel ou pour me faire voir de l'Assemblée, parce que vous savez, hélas, ça arrive. C'est pas un blâme de dire que ça arrive. On est marqué par le péché dans notre vie. Hein? Et les petites marques du péché nous traînent avec nous. C'est pas péché, là, mais ça traîne là. Hein? Quand vous avez un beau pantalon, vous avez un pli pareil en quelque part, vous allez me dire, le pantalon est plus bon. Non, c'est pas vrai. Mais il y a un pli. Alors, il nous arrive de prendre des plis. Et ça rend parfois difficile l'exercice des charismes. C'est pour ça qu'il faut, avec supplication, avec insistance, demander au Seigneur qu'il prenne possession de notre cœur, de notre esprit et de nos lèvres, pour que ceux qui vont entendre en soient édifiés, et en soient transportés, et en soient même guéris. On a entendu vers la fin de l'avant-midi une parole. J'ai cru comprendre que le Seigneur disait à quelqu'un qu'il la guérissait. Je ne sais pas si cette personne s'est reconnue. Si elle s'est reconnue, j'aimerais ça qu'elle le dise. Bon, j'aimerais ça tout à l'heure, quand je vais avoir fini de parler de ça, j'aimerais ça que vous disiez qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez entendu la parole. Parce que ça va être un exercice important de « Le Seigneur m'a touché ». Le Seigneur a parlé. C'est important de pouvoir le témoigner. Puis je ne dis pas qu'il n'arrivera pas autre chose, mais on ne commande rien au Seigneur. On lui demande simplement qu'il se manifeste dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, pour le bien de nos âmes, puis qu'on soit plus généreux. Quand on était tout petit, nos parents, pour nous faire plaisir, nous donnaient des sons. Mais je serais porté à dire qu'on a besoin parfois de l'apport du Seigneur d'avoir des bons sons pour être plus généreux. C'est vrai ça, parce qu'on est humain, puis qu'on est charnel. Saint Paul le dit, j'ai été obligé de vous parler comme à des charnels, non pas comme des hommes spirituels, parce qu'encore, vous vous jalousez. Parfois, vous vous décapitez. Hein? Je vais prendre les mots québécois, là. Mais lui, il dit, vous ne vous faites pas de bien. Des fois, vous avez des envies face aux autres et tout ça. C'est ça le côté charnel qu'on a. Malgré ça, le bon Dieu, dans sa grande bonté et sa grande miséricorde, pour nous adoucir un petit peu le caractère, puis nous faire entrer dans son mystère et son amour, eh bien, il nous envoie des petites gâteries. Et les petites gâteries, c'est soit de nous guérir. Pourquoi? Pour qu'on témoigne de sa bonté, de son amour, de sa puissance, de sa grandeur. Puis en même temps, il nous fait comprendre qu'on n'est pas grand-chose. Hein? On est bien petit dans sa main. Mais lui, il vient nous montrer qu'il peut tout. Bon, ceci étant dit, je voulais parler des dons de l'Esprit-Saint, c'est certain. Lorsque vous vous assemblez, chacun, ça veut dire chacun. Il n'y a pas d'exception. Chacun peut avoir un cantique. Ça veut dire un cantique que l'Esprit-Saint vous inspire. Et ça, j'ai vu ça dans le passé, ces choses-là, et c'est merveilleux. De le faire en toute simplicité. Ça peut être un enseignement. Vous avez pu être frappé aujourd'hui par quelque chose de façon particulière, puis vous aimeriez en témoigner, le dire. Une révélation, ça veut dire quelque chose qu'on n'est pas au courant du tout, puis que bon Dieu vient nous dire. Un discours en langue, une interprétation du discours en langue. Ici, là, dans ma traduction, j'ai un discours en langue, mais certains dans vos Bibles, c'est marqué une parole en langue. Dans d'autres Bibles, c'est dit un message en langue. Ça veut dire toute la même chose. C'est d'une langue étrangère, et puis quelqu'un, poussé sous l'action de l'Esprit-Saint, émet ce discours en langue. Et après arrive l'interprétation par une autre personne dans la langue de tout le monde ici. Là-dessus, je vais vous conter un fait qui nous est arrivé alors qu'on était réunis, je ne sais pas si vous l'avez déjà compté, en tout cas, ça sera pour la gloire de Dieu pareil. C'est une réunion d'à peu près 270 jeunes avec des répondants dans un diocèse. Il y avait plusieurs responsables qui étaient venus aussi. Et puis, au tout début de l'Assemblée, ce que nous ferons tout à l'heure parce que je ne vous ai pas fait partir en langue en chantant, mais je leur ai dit, nous allons d'abord partir en langue. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, mais nous, on ne sait pas c'est quoi. Mais je lui ai dit, vous allez faire ceci. Ouvrez votre bouche, fermez vos yeux, puis partez en laissant aller un son. Puis laissez aller vos lèvres. Ce que nous allons faire d'ailleurs, vous avez juste à imiter comme les petits-enfants en balbutiant. Reçois, Seigneur, la louange de ton Esprit Saint.
Aussi alléluia, aussi alléluia, Dio merci.
Alors, on va voir une interprétation, puis après, je vais vous conter ce qu'on vient de vivre, ce qu'on avait vécu avec les jeunes.
Ma fille, ne crains pas de proclamer ma parole telle que je la dépose en ton cœur, car elle est une source d'eau vive qui nourrit et illumine le cœur et qui rend témoignage à la vérité. Je te le dis, tu n'as qu'à faire l'acte de foi, de t'avancer, d'ouvrir la bouche et de donner simplement les mots que je dépose en ton cœur comme un petit enfant. Sois assuré de mon secours, car je n'abandonne pas mes envoyés. Je les soutiens de mon bras puissant et leur donne le courage dans l'épreuve. Parole de ton Seigneur qui t'aime et qui te veut audacieuse dans la foi.
Ce que nous avons fait ensemble, en chantant en langue, puis après, Carmen a continué à chanter le chant. J'ai voulu faire répéter ce qu'on avait vécu, une expérience avec des jeunes, à peu près 270 jeunes. Il y avait un jeune à l'Assemblée qui ne savait pas chanter et surtout qui n'avait pas d'oreilles. Il chantait toujours faux. Et je l'ai entendu qui continuait à chanter tout seul, alors toutes les autres avaient arrêté. Je lui ai dit, continue Pierre, continue. Il a continué. Et tout de suite après, une religieuse, ils étaient deux religieuses, et il y avait une novice qui arrivait de l'Inde avec deux religieuses, deux missionnaires. Et cette novice avait dit justement aux deux autres religieuses, « Moi, là, le don des langues, là, j'en viens. C'est pas vrai, ça. » Comprenez-vous? C'est pas vrai. Elle était très sceptique vis-à-vis ça. Et qu'est-ce qu'elle entend? Elle arrive des Indes parce qu'elle a vécu là. Le chant du frère qui a chanté en hindi. Puis tout le chant, elle a pu le reconnaître dans la langue du peuple, puis elle pouvait nous traduire qu'est-ce que ça voulait dire en français. C'était pas une merveille, non? Tu sais? Elle dit, là, je m'incline, elle dit, je reconnais vraiment que le bon Dieu est intervenu dans l'assemblée. Vous avez un exemple de ce que dit saint Paul. Il dit, si tous prophétisent et qu'il entre un infidèle ou un non-initié, le voilà repris par tous, jugé par tous, parce qu'il a entendu dans sa langue. Les secrets de son cœur sont mis à nu. Alors, tombant la face contre terre, il adorera Dieu en proclamant que Dieu est réellement parmi vous. Vous voyez comment c'est important, l'exercice des dons, pour manifester la présence de Dieu, pour redonner espérance à des cœurs, des fois abattus, écrasés. Alors, on vient de faire l'exercice du charisme du don des langues, avec ce que j'appelle l'interprétation. Mais on pourrait très bien dire que Carmen, que continuer, a fait comme si elle donnait un message en langue ou ce qu'on appelle communément là, un discours en langue ou une parole en langue, comme elle le dit. Mais ici, c'est moi qui ai demandé de le faire. Et vous autres, comme des gens bien obéissants, vous avez parti en langue. Alors, ça a été fait dans les règles de la soumission à quelqu'un qui anime. Le bon Dieu, il peut bénir ça en masse, parce que c'est la soumission les uns aux autres qui s'est manifestée. Et puis le signe, là, elle l'avait clair, je lui ai dit, continue à chanter. Ça peut arriver que ça se fasse autrement. Quand je vous ai dit pour le don de discerner les esprits, c'est un signe clair au-dedans. C'est sans équivoque, on est certain. Il y a ces façons-là de procéder. Alors, tâchez vous en rappeler, vous ne forcez rien. On ne fait rien dont on n'est pas certain dans ce domaine-là. Tu sais, il dit, je vais me risquer, je vais essayer. Non, n'essayez pas. Dites au Seigneur, prends-moi comme instrument, comme tu le veux, comme tu l'entends, pour ta plus grande gloire. Bon, alors, ça c'est pour nous préparer à l'entrée dans la prière tout à l'heure, où j'aimerais qu'on laisse parler son cœur. Et à ce moment-là, parler pour être entendu. Une femme, ça a une voix plus claire qu'une voix d'homme. Alors, vous vous leverez debout au besoin, ou bien si vous ne vous levez pas debout, mettez pas vos mains devant la bouche, regardez ce que ça fait faire, vous commencerez à m'entendre pas complètement, de parler pour que tout le monde entende. Quelle est la raison pour qu'à votre prière ou à une parole, nous puissions dire « Amen », c'est-à-dire que cela s'accomplisse. Parce que saint Paul, il dit, comment pourrez-vous dire « Amen » si vous parlez une langue qu'on ne comprend pas? Hein? Allez-vous être capable de dire « Amen » parce que vous avez compris qu'est-ce que j'ai dit? Non. Mais, si quelqu'un fait une prière en français, présentement, ou une louange chantée, ça peut être ça. C'est, on casse la glace, on casse sa gêne, puis on le fait tout bonnement. Par ordre, puis après ça, les autres répondent « Amen ». À des endroits, il y en a qui vont dire « Béni sois-tu, Seigneur ». Merci beaucoup, Seigneur. Mais ça ne veut pas dire Amen. Amen veut dire nous sommes d'accord avec la prière qui vient d'être dite. Vous comprenez? Voilà. Alors, il faut que vous sachiez la différence, parce que j'ai eu bien la misère dans un groupe de prière de leur expliquer à chaque fois qu'il arrivait soit une prière, il disait « Béni sois-tu, Seigneur! » « Oh ben, Alléluia, Seigneur! » Mais je me suis dit « Êtes-vous d'accord avec la prière qui vient d'être dite par madame, par monsieur? » Alors, c'est saint Paul qui a parlé de ça à ses groupes, à ses assemblées. C'est pas pour rien que j'insiste, parce que la parole de Dieu, elle est vraie. Puis saint Paul vient nous dire, c'est comme ça qu'on doit procéder devant notre Seigneur et notre Dieu. Ça marche? Fait que tout à l'heure, quand on va prier, vous pourrez dire Amen à la prière de quelqu'un qui fera. C'est pas nécessaire qu'il y en ait beaucoup. Vous savez qu'il peut y avoir un moment de silence, un moment des fois long, puis quelqu'un, il peut sentir qu'il aura envie de dire quelque chose d'édifiant. Ben, qu'il se lève, puis qu'il fasse la chose édifiante, qu'il le dise. Puis qu'il laisse ça au Seigneur le restant. Les autres, vous écoutez, vous vous trouvez à discerner les oreilles, vous écoutez comme il faut pour voir si la parole qui va rentrer dans vos oreilles, quel effet qu'elle va faire dans votre cœur. Et là, je vous ai parlé ce matin du lac. Au-dedans de nous, nous avons comme un lac. Et quand l'eau est tout calme, c'est la paix. S'il arrive une parole qui n'est pas de l'Esprit-Saint, ça va faire l'équivalent de flouc ou de quelque chose de semblable. Un effet dans l'âme qui est brusque, qui peut être rude, qui peut avoir différents effets. Ça veut dire, au garde à vous, parce que c'est peut-être pas la vérité toute crue que vous venez d'entendre. C'est pour ça qu'il peut arriver qu'il y ait une conférencière ou un conférencier qui vient donner une conférence, mettre toute l'assemblée à l'envers parce qu'il a dit de quoi, mais pas sous l'action de l'Esprit-Saint. Hein? Ceux, par exemple, qui veulent monter en révolte, en contestation, tout un groupe, bien, c'est ça que ça se produit. Mais les gens, par leur passion, s'en rendent pas compte. Alors, mais dans un groupe de prière, c'est possible parce qu'on rentre dans un groupe de prière pour prier, pour louer Dieu. Et c'est pas juste la louange. À l'intérieur d'un groupe de prière, aucune défense. Il peut être permis de demander, et notre Seigneur dans l'Évangile, il dit bien, « Demandez-moi tout. » Je vous dis ça, encore une fois, parce qu'il y en a qui font des petites nuances. On dit, oh, « On ne peut pas tout demander. » Oh non, tout ce qui est selon la volonté de Dieu, ben c'est certain. Mais notre Seigneur, il dit, « Demandez-moi tout. » C'est le bon Dieu qui fait le triage. Pourquoi le faire nous autres-mêmes? Qu'on ait l'humilité de tout y demander. Puis, vous savez, le million, il ne vous le donnera pas. C'est ça. Puis s'il veut vous le donner, c'est de ses affaires. Mais il y aura une raison. Mais ce que je veux dire, c'est que d'apprendre comme les petits-enfants qui ne calculent pas tout quand ils s'en vont trouver leur père ou leur mère, puis ils vont dire, il faut que je fasse attention, je ne peux pas demander n'importe quoi à papa. Je ne peux pas demander n'importe quoi à maman. C'est pas vrai. L'enfant va avec une telle spontanéité. Et c'est ça que Dieu, notre Père, veut qu'on fasse. D'aller comme un cœur de tout petit enfant pour dire, Seigneur, tout ce que tu veux. Voici. Je veux vous faire expérimenter l'éloge de la sagesse. Parce que saint Paul vient nous dire, le Christ Jésus, il est notre sagesse, notre sanctification, notre rédemption. Il est donc la sagesse incarnée. Mais cette sagesse quelle est-elle? En faire l'éloge, c'est dans l'Ancien Testament que nous retrouvons cela. En elle, la sagesse est un esprit intelligent et saint. C'est relié étroitement à l'Esprit Saint, parce que vous savez, le Père, le Fils et l'Esprit Saint forment un seul Dieu, en trois personnes. Quand on parle de l'esprit de sagesse, vient notre secours, esprit de puissance. Quand saint Paul parle de l'esprit de puissance, de démonstration d'esprit et de puissance, c'est bien l'Esprit Saint. Mais c'est l'esprit du Christ, c'est l'esprit du Père qui est en nous. Cet esprit est une personne et il est en nous et il vit en nous. Malgré nos misères, nos difficultés, nos obstacles, puis parfois nos chutes, il demeure présent en nous. Il devient de plus en plus agissant quand on s'efforce de ne point l'offenser en rien. C'est cet esprit de sagesse que je veux vous décrire. Il est unique, cet esprit de sagesse. C'est parce que notre titre de la journée, c'est « Unité et diversité des charismes ». Je veux le relier à cela pareil. La sagesse, elle est unique. Elle est multiple. Elle est subtile. Elle est agile. Pénétrant. Pénétrant, c'est lire dans les cœurs. Sans souillure, clair, impassible, sans un rapport avec le discernement, la lumière intérieure. Ami du bien, ami des humains, constant, ferme, sans souci, qui peut tout, surveille tout. Le surveille tout, c'est le discernement. Pénètre tous les esprits, les plus intelligents, les purs, les plus subtils. Quand il nous arrive un exorcisme, c'est là qu'intervient l'agir du Saint-Esprit pour voir clair et discerner et nommer les esprits qui peuvent habiter la personne. J'ai eu l'occasion de vivre ces expériences-là quelquefois, et je peux vous dire, ça prend vraiment l'aide du Saint-Esprit parce que ce n'est pas quelque chose de rationnel. Mais plus on s'approche du Dieu vivant, plus on expérimente son agir. La sagesse est un souffle de la puissance divine, une effusion toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de son excellence. Bien qu'unique, elle peut tout. Elle renouvelle toute chose. Cette sagesse se répand au long des âges dans les âmes saintes. Les âmes saintes, c'est celles qui ont le souci d'accomplir la volonté de Dieu, de la rechercher et dès qu'on la connaît, de la mettre en pratique. C'est des âmes saintes. Elle en fait des amis de Dieu et des prophètes. Voyez comment c'est relié étroitement quand même à ce qu'on dit quand on parle des charismes. C'est quelque chose qui est merveilleux à méditer et à relire et à nous faire prier pour demander au Seigneur qu'il nous donne de vivre dans la lumière de sa parole et d'accomplir toutes ses volontés qu'on connaît. Ce matin, je vous ai dit qu'on formait un seul corps, tout en étant plusieurs membres. Il faut s'en rappeler que ces membres-là sont unis entre eux et ils sont soumis entre eux pour ne faire qu'un seul corps. D'où on peut tirer l'importance de la soumission entre les personnes. Vous allez trouver que j'ai une petite marotte en vous en reparlant. Mais la soumission, c'est un mot qu'on a presque banni du vocabulaire tellement on trouve que ça n'a pas d'allure. On pense que c'est s'avilir, que c'est s'écraser, que c'est perdre sa personnalité que de se soumettre. Alors que c'est ça qui aide à créer l'unité à travers la multiplicité des personnes, des différentes personnes. Puis regardez dans le monde comment ça fonctionne présentement pour voir toutes les guerres et les divisions et les chicanes. Parce que les gens ne se soumettent pas, mais ils veulent chacun avoir, comme on dit, le bout du bâton pour mener le monde. Quand on rentre dans la soumission, on se trouve à rentrer dans l'humilité. Et le Seigneur a dit que l'humble trouve grâce devant Dieu. Si nous voulons avoir une facilité à exercer les charismes, il faut apprendre à se soumettre. Pas de mauvais gré, de bon gré, avec amour, à cause du Christ, par amour du Christ.
J'aurais aimé dire quelque chose sur ce sujet.
Oui, mais il faut que tu te lèves pour que tu parles au micro.
Sur la soumission,
nous sommes tous des hommes qui veulent s'efforcer d'aimer le Seigneur et de le suivre. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Alors, quelque part dans l'Écriture, on entend Jésus qui dit « Je ne dis rien de moi-même et je ne fais rien de moi-même. Je fais et je dis ce que le Père me dit de faire et me demande de dire. » Alors, lui qui est notre modèle, qui était Dieu, qui est Dieu et pleinement homme, nous a donné l'exemple de quelqu'un que quand il a parlé, c'est parce que son Père lui disait de parler, et quand il a agi selon ce que son Père lui a dit. Alors, la pensée qui me vient, c'est que qui sommes-nous pour penser qu'on va s'avilir parce qu'on va se soumettre à quelqu'un, alors que notre chef, celui qui est notre modèle, Jésus-Christ, a agi ainsi.
Amen, oui. Gloire et louange à l'Esprit, source d'amour et de vie. Esprit qui, par ses agirs multiples, fortifie les serviteurs de Jésus, ses disciples. Esprit Saint qui, par sa manifestation, entraîne les âmes à la perfection. Esprit d'amour et de charité, en qui réside la paix et l'unité. Ô divin Esprit, prends possession de nos cœurs. Toi, notre joie, notre force et notre défenseur. Fais éclore en nous tes charismes et tes dons, pour la gloire de Jésus et de ton saint nom. Comble-nous de patience et d'humilité, de soumission à l'égard de toute autorité, à cause de Jésus, notre bien-aimé, qui s'est fait obéissant en toute vérité. Ouvre grand nos cœurs à ton action et rends-nous attentifs à tes inspirations, pour que nous y répondions promptement, comme des enfants dociles au Tout-Puissant. Aide-nous à ne faire qu'un seul corps, et fais-nous grandir dans l'ardeur et l'effort, pour que règne entre nous justice et bonté, dans l'entraide et le soutien à la sainteté. Réchauffe nos cœurs au feu de ton amour, afin que nous soyons brûlants pour toujours. De la divine flamme du zèle et de l'ardeur à répandre l'Évangile, source du vrai bonheur. Sois notre courage dans nos détresses, force et soutien dans nos faiblesses, et fais-nous croître dans la sagesse pour nous conduire à Jésus, notre allégresse. Ô Esprit Saint Consolateur, ravive-nous dans la ferveur pour vivre unis à Jésus Sauveur, notre lumière, notre pasteur. Ô Saint-Esprit, éclaire-nous. Esprit Saint, conduis-nous. Garde-nous et protège-nous. Maintenant, à jamais et partout et toujours. Amen. Alléluia.